Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur l'homophobie et pour être tout à fait précis, la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie. Toutes ces formes coexistent et suscitent des violences verbales ou physiques en famille, à l'école, sur internet et des discriminations, par exemple à l'embauche et dans le déroulement des carrières. Avec cette situation paradoxale de la France qui, avec le mariage pour tous, a à la fois donné de nouveaux droits et permis à une parole LGBT-phobe, comme on dit, de se libérer, parfois sans complexe. Alors intervenez, amis auditeurs, et témoignez dans ce téléphone sonne où il sera également question de certains pays étrangers, parfois meilleurs que nous, souvent bien pires, je pense évidemment à la Tchétchénie, qui a repoussé les limites de l'abjection en organisant la traque, l'enfermement, la torture et parfois l'assassinat des homosexuels. Le téléphone sonne jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Bonsoir Hugo.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, merci pour la qualité de vos émissions et merci de prendre mon témoignage. Alors moi, je suis homosexuel, j'ai 27 ans. Je ne me définis pas qu'en tant qu'homosexuel, bien sûr. Je m'en suis aperçu assez tôt, hein, vers 8 ans. C'est un choix qui s'est imposé, si je puis dire. Même si, voilà, c'est tôt, mais bon, que voulez-vous. Alors, l'homophobie, moi, je l'ai vécue par des coups, des insultes, à l'école notamment, jusqu'à en venir à vouloir me suicider, à sauter le pas à 12 ou 13 ans. Personne n'en a rien su. J'avais tout fait pour me cacher, évidemment. Et me cacher, ça a été un peu ma destinée après, parce que j'ai voulu me cacher ou me faire du mal à moi-même pour éviter de subir encore plus d'homophobie. Et l'amélioration, en fait, elle est venue au lycée grâce à ma famille, à mes amis. Il y a eu toute une reconnaissance aussi dans la société. Bon, je l'ai vu de manière plus tardive pour le mariage gay. Et puis bon, ce qui était un scandale est devenu une acceptance, d'ailleurs, plutôt qu'une tolérance. Je préfère le terme d'acceptance. Mais bon, après, moi, je me dis, pour beaucoup de jeunes homosexuels ou de jeunes lesbiennes ou de jeunes trans ou intersexes, d'ailleurs, les soucis psy commencent pour beaucoup, jeunes et moins jeunes. Et les dégâts de l'homophobie, c'est des dégâts pour toujours, vraiment pour toujours. Donc l'homophobie, pour moi, c'est une réalité qui tue et qui tue vraiment. Mmh. Voilà, c'est mon témoignage.
Restez avec nous, Hugo, et permettez-moi de vous présenter les invités de ce téléphone sonne. Joël Demier, bonsoir.
Bonsoir.
Président de SOS Homophobie, Jean-Luc Romero, bonsoir.
Bonsoir.
Conseiller régional d'Île-de-France, auteur de Survivant, point d'exclamation, mes 30 ans avec le sida, c'est chez Michalon. Et bonsoir Philippe Angeau.
Bonsoir.
Ancien militant d'ACT UP Paris, ça fait très longtemps que je ne vous avez pas vu. Qui veut tout simplement réagir au témoignage d'Hugo, éventuellement dialoguer avec lui, Joël Demier?
Oui, bonsoir Hugo. Merci d'abord pour votre courage de témoigner de votre mauvaise expérience d'homophobie dans le milieu scolaire, qui reste une réalité en France aujourd'hui. L'homophobie est très ancrée dans la société française, à l'école, au travail. Plus 20% de cas de témoignages d'homophobie, de transphobie en 2016. C'est le dernier rapport annuel des SOS Homophobie. Hugo parlait de la loi du silence à l'école. C'est une réalité aujourd'hui. Les adultes, les encadrants scolaires, les professeurs, les proviseurs, on est tous et toutes responsables de l'homophobie à l'école. Et le premier des responsables, c'est l'État. Parce que l'État, il est responsable de la sécurité des élèves. Donc dès lors que quelqu'un, comme Hugo, est victime de coups, d'agressions, d'insultes, de menaces homophobes à l'école, c'est avant tout le personnel encadrant, les adultes qui sont à l'école et l'État qui sont responsables.
Hugo, vous avez pu le dire ça ou vous avez été, je sais pas comment formuler les choses, mais contraint de subir en silence?
Alors en fait, oui, j'en ai parlé très tôt en fait parce que j'étais pas du genre à me laisser faire, contrairement à ce qu'on voulait bien. Mais bon, écoutez, en fait, j'en ai parlé à ma mère qui allait voir le principal du collège à l'époque, donc je devais avoir 11 ans. Et le principal, en fait, n'a rien fait en disant que c'était un problème qui n'en était pas un. Enfin bon, c'était un grand homophobe. Donc bon. Mais ma prof principale, en fait, a réagi et elle a pris toute ma classe de 5e à part et elle leur a parlé. Et en fait, du jour au lendemain, alors en 4e et en 3e, c'était limite encore pire, mais du jour au lendemain, c'était en mai, je crois, toute ma classe de 5e a arrêté de me victimiser, en fait. Donc je pense qu'il y a quand même des adultes responsables, pour reprendre ce que disait votre intervenant, et que mais qu'on peut faire quelque chose, il suffit d'en parler, il suffit d'en parler.
Philippe Mangeot.
Oui, non, ça se joue évidemment, comme le rappelait Hugo sur, à l'occasion, sur l'intervention. Je suis enseignant, par ailleurs, sur l'intervention d'un enseignant. Il y a une responsabilité de l'école de ce point de vue-là, mais ce que rappelait Hugo, par ailleurs, c'est qu'il a été soutenu par sa famille. Il faut se souvenir, d'autre part, qu'un certain nombre d'actes homophobes se jouent à l'intérieur de la famille, quand des enfants découvrent, par exemple, qu'ils ne sont pas chez eux. On aura peut-être l'occasion de parler non seulement de la situation d'aujourd'hui, mais d'où on vient, parce que quand même, il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été faits en matière de lutte contre l'homophobie et d'identification de l'homophobie. Mais et Jean-Luc Romero pourra en parler lui aussi. Je me souviens d'une époque où un certain nombre de jeunes gays mouraient du sida sans pouvoir même en parler à leur propre famille, justement, parce que ça aurait été révéler leur homosexualité à leur propre famille.
On vient de très très loin donc, hein, Jean-Luc Romero, à la fois sur le témoignage d'Hugo et ce que vient de dire Philippe Mangeot.
Non mais c'est vrai qu'il y a toujours une homophobie qui est très forte, et on voit que cette année la campagne électorale n'a pas aidé, hein. Je crois que le rapport de SOS Homophobie l'explique bien, certains propos qui ont été tenus, notamment par sens commun, il faut dire les choses telles Absolument. Qu'elles sont. Vous imaginez quand vous avez ces jeunes garçons, ces jeunes filles, parce que ça reste quand même pas toujours facile, vous n'avez pas été éduqué pour être homosexuel, vos parents ils veulent que vous soyez hétérosexuel, ça se passe dans la plupart des familles comme ça, et donc c'est pas simple, et donc on est dans cette situation à la fois paradoxale où on voit qu'il y a en tout cas une homophobie qui s'exprime plus, parce que moi au final, alors peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression quand même que la société elle a considérablement évolué et que l'homophobie elle a reculé, mais il y a une petite frange qui se sent d'ailleurs très forte depuis le mariage pour tous et qui a trouvé un moyen de s'exprimer, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est à la fois le meilleur et c'est le pire. C'est-à-dire que ces gens-là, avant, quand ils voulaient tenir des propos homophobes, ils les tenaient tout seuls ou entre quelques copains, ils voyaient que personne n'appréciait ça. Et puis un jour, il y a eu ces réseaux sociaux et ils ont mis des propos horribles. Ils ont vu que des gens les likaient, les retweetaient, et puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient quand même une certaine communauté, un certain nombre. Et donc ça leur a donné une force considérable. Et aujourd'hui, ils se sentent très forts, surtout qu'il y a une impunité sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie responsabilité, Twitter, Facebook, YouTube et tous les autres. Ça, c'est pas, chez SOS le dénonce. Très souvent, mais elle est là, cette réalité, mais c'est une minorité qui est aujourd'hui organisée. Je ne pense pas que notre pays il a régressé, je pense qu'il a progressé, mais malheureusement il y a cette violence aujourd'hui.
Sur les discours, Philippe Mangeot, qui s'exprime effectivement, bon, il y a plus d'endroits où le dire en toute impunité.
Alors il y a évidemment une libération de la parole homophobe, ne serait-ce que parce que les réseaux sociaux permettent effectivement de la multiplication virale de ces discours. En même temps, il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui homophobie, on ne le percevait pas comme homophobe il y a encore 10, 15, 20 ans. Moi, je me souviens d'avoir participé au dictionnaire de l'homophobie dirigé par Louis-Georges Jetin en 2003. Et à l'époque, l'idée même qu'on parle d'homophobie n'allait pas de soi. C'est-à-dire le simple fait qu'aujourd'hui, il y a une journée mondiale de lutte contre l'homophobie, qu'aujourd'hui, il y a une émission comme celle-ci aujourd'hui, montre que peut-être qu'on a une plus grande vigilance et sensibilité aux actes homophobes parce qu'on sait aujourd'hui nommer l'homophobie.
Donc ça remonte à il y a une petite quinzaine d'années, ce que vous dites. 2003, c'est ça?
Oui, enfin en même temps, les homosexuels, lesbiennes, organisées, savaient repérer des actes homophobes. Je crois que maintenant, le repérage de l'homophobie est plus uniment partagé.
Joël Demier, et puis on retourne au standard où Paul nous attend.
Oui, Philippe Mangeot a raison, je rejoins son point de vue, c'est-à-dire que les victimes perçoivent de mieux en mieux les actes homophobes et les propos homophobes. Et ça, c'est très important parce que plus on parle d'homophobie, de lesbophobie, de gayphobie, de biphobie et de transphobie, dans les médias, plus les politiques en parlent, plus on a de chance que les gens trouvent les actes et les propos homophobes intolérables, franchissent le pas de témoigner, franchissent le pas d'aller au commissariat de police pour porter plainte. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez être victime d'une insulte, d'une menace, d'une agression physique, si vous n'allez pas porter plainte, c'est pas comptabilisé et finalement, on peut pas traiter ce cas-là et ça n'existe pas. Donc il y a une invisibilité de l'homophobie qu'il faut absolument, il y a une loi du silence qui est partout, qui existe encore aujourd'hui en 2017 et il faut la briser.
Allez, on retourne au standard. Bonsoir Paul.
Bonsoir à tous.
Nous vous écoutons.
Moi je suis Paul, j'ai 20 ans. J'ai eu en fait beaucoup de soucis durant la période de ma scolarité, notamment au collège en fait, où j'ai été victime de quelques agressions et surtout beaucoup d'insultes et de remarques. Et ça, en fait, je l'ai très mal vécu jusqu'en troisième. Et du coup, je me suis un peu renfermé sur moi-même à ce niveau-là, sur l'acceptation de soi. Et là, du coup, maintenant, je suis en alternance, en fait, chez Orange, et dans un centre de formation privé. Et j'ai encore ce mal, en fait, de lier ma vie personnelle, en fait, à ma vie professionnelle. J'ai vraiment du mal à me montrer, en fait, dans ma vie professionnelle. Mmh. Et notamment aussi en cours, en fait, en formation. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer. En fait, on a sa vie personnelle où on s'accepte. Moi, j'ai la chance de pouvoir le vivre correctement auprès de ma famille, auprès de mes amis. Mais au niveau professionnel, en fait, c'est plus une peur de par ce qui m'est arrivé au collège que vraiment le fait de l'assumer. Mais c'est cette peur, en fait, moi, je suis dans un milieu technique, donc peut-être un peu macho, je dirais, sans être pas péjoratif. Mais voilà, c'est plus une peur, en fait, pour moi aujourd'hui de m'assumer dans le milieu du travail et dans le milieu de la formation. En fait.
Et on vous pose des questions, Paul. Vous êtes obligé d'éviter les conversations. Comment ça se passe au travail?
J'évite pas forcément les questions, mais je vais inventer des mensonges, en fait, pour essayer de passer outre et de passer le plus possible au proche du naturel, de ce qui paraît normal, en fait, dans cette norme. Mmh.
Restez avec nous, Paul. Joël Demier va réagir à vos propos, à vos témoignages, éventuellement dialoguer avec vous.
Oui, Paul, en fait, quand vous dites que vous passez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à cacher votre homosexualité, ou en tout cas à ne pas en parler au travail, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez le sentiment que vous perdez aussi cette énergie et que vous ne travaillez pas correctement, du coup? Enfin, c'est-à-dire que les entreprises, on se rend pas compte, mais avec l'homophobie au travail, elles perdent un potentiel dans les ressources humaines qui est incroyable. Et tant qu'on n'aura pas... Enfin, c'est aussi un sujet, c'est-à-dire que quand on est mal au travail à cause de l'homophobie, on travaille mal, et non seulement pour l'individu, c'est un drame, mais aussi pour l'entreprise et pour toute la société. Donc, Paul, est-ce que vous avez le sentiment de ne pas être à 100% de vos capacités à cause de ce climat d'homophobie au travail?
Paul?
Voilà, alors moi, j'ai pas cette sensation, en fait, de au niveau de ma productivité, si vous voulez. Je suis heureux dans mon travail, si vous voulez, ça me plaît vraiment. C'est plus dans le côté relationnel entre mes collègues, plus le côté de travail en groupe, en fait, qui me fait, en fait, réfléchir. Je vais essayer de réfléchir à mes réponses avant de répondre à une question un peu plus personnelle dans mon travail. Mmh. Et ça me pèse plus psychologiquement, quoi.
C'est quand même une perte d'énergie. C'est quand même une perte d'énergie et cette énergie-là que vous passez à réfléchir à vos réponses,
aux stratégies d'évitement, de silence,
d'angoisse. Même si c'est léger, c'est quand même présent, quoi.
Jean-Luc Romero.
Non, c'est vrai que c'est pas confortable du tout quand les hétéros se racontent leur week-end et vous êtes obligé de raconter un faux week-end. Et forcément, vous vous sentez pas bien.
Ça vous est arrivé, ça?
Ah, ben, bien sûr, ça m'est arrivé. Oui, moi, vous savez, j'étais d'une autre génération et j'étais dans le Pas-de-Calais, à Béthune. C'est pas toujours simple encore aujourd'hui. Bien sûr que c'était pas évident. En plus, j'étais physiquement très fin, etc. J'avais des fois des allusions. Et quand vous avez 14, 15 ans, c'est pas quelque chose toujours de très simple à accepter. Voilà. Et ces stratégies, elles vous bouffent. Parce que vous passez plus de temps à mentir. Pense que c'est...
Ça consume.
Bien sûr, ça consume.
Philippe Mangeot.
Mais en fait, les questions qui sont posées grâce à Paul, c'est aussi des questions d'identification de ce que c'est que l'homophobie ordinaire. L'homophobie ordinaire, par exemple, ça consiste simplement à dire à quelqu'un comme une évidence, à un garçon comme une évidence, viens avec ta copine, ou viens avec ta compagne, ou à une fille, viens avec ton compagnon. C'est-à-dire que on aura avancé le jour où il semblera évident de varier, enfin en tous les cas, d'envisager tous les cas de figure quand on pose la question. En d'autres termes, l'homophobie, elle peut venir se loger dans des phrases extrêmement généreuses, extrêmement accueillantes, mais qui s'ignorent dans leur homophobie et qui conduisent à des stratégies d'évitement ou de mensonges.
Sur les, je peux juste dire quelque chose, parce que ça m'a fait penser à quelque chose. C'est moi, je suis élu depuis un certain temps. Je reçois toujours des invitations protocolaires, alors que je suis marié depuis 3 ans avec un homme, et qu'en France il y a le mariage pour tous, et je reçois encore des invitations, Monsieur et Madame Jean-Luc Romero. Ce qui prouve quand même qu'il y a aussi au niveau des administrations encore un certain travail à faire. Quand on voit qu'aujourd'hui on continue, après le mariage pour tous, à envoyer des invitations à des personnes en disant que forcément ils ne peuvent qu'être
on ne peut
être que hétérosexuel.
Revenons, parce que les deux témoignages partent de là, revenons à la question et passons-y quelques instants, Philippe Mangeau, à la question de l'école. Les deux premiers témoignages, c'est « Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu à l'école, j'agis de telle manière parce que je me souviens encore de l'école et je me souviens notamment du collège ». Vous l'avez dit, vous êtes prof, comment ça se passe ?
Je ne sais plus exactement comment ça se passe parce que je suis prof en classe préparatoire et pour le coup, en classe préparatoire, la question est elle est relativement cruciale qu'elle peut l'être, par exemple, au collège. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande difficulté de l'école à parler de la sexualité. On peut commencer comme ça. Et à partir du moment où il y a une difficulté de l'école à parler de la sexualité, il y a une difficulté de l'école à accompagner des jeunes gens qui découvrent que leur identité n'est pas exactement dans la norme. Alors même que la conception même de la norme a changé. Parce que de ce point de vue, évidemment, cette émission, il faut aussi rappeler, comme on le disait tout à l'heure, que des choses remarquables ont changé. Je fais partie des gens, et je crois qu'on était tous les trois ou tous les quatre, et beaucoup d'auditeurs sans doute également émus par le fait que le compagnon du policier assassiné sur les Champs-Élysées a pu parler. Rendre un hommage à son propre compagnon sans que jamais la question de sa sexualité soit posée. En d'autres termes, il y avait une nouvelle norme qui s'imposait de façon absolument officielle, et ça, c'était juste impensable il y a encore 5-6 ans.
C'est exactement ça. C'est 5-6 ans... Voilà. Ça aurait été absolument inconcevable. Vous avez vécu ce moment, Jean-Luc Romero.
Bien sûr, avec une émotion forte, mais aussi avec beaucoup de tristesse pour ce qui s'est passé après, une fois de plus, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'ancien ministre de l'Intérieur a porté plainte parce qu'il y a eu des propos absolument incroyables. On a parlé de Jean-Marie Le Pen, qui a encore déclenché des tas de choses, mais sur les réseaux, c'était terrible. Et en même temps, il faut aussi relativiser les choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il faut aussi en parler. Je sais que c'est pas forcément le sujet, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Tchétchénie, quand on voit que d'ailleurs la Russie, dans ce pays-là, vous croyez que votre émission, vous pourriez la faire ? Bien sûr que non, ce serait absolument interdit.
Ni celle-là, ni beaucoup d'autres.
Particulièrement sur cette question-là, puisque la propagande, entre guillemets, homosexuelle est interdite. Et c'est à quelques heures d'avion d'ici.
Sur la Tchétchénie, il faut rappeler quand même ce qui s'est passé.
Alors allons-y là aussi, et puis on retourne au standard.
Rafle d'homosexuels, emprisonnement et assassinat d'homosexuels. Première négation. Deuxièmement, le président et son porte-parole signalent que ça n'a pas eu lieu. Deuxième négation. Troisièmement, il signale que ça n'a pas eu lieu parce qu'il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie. Troisième négation. Et il ajoute que s'il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie, c'est parce que les parents, les familles s'en débarrassent à partir du moment où ils existent, ce qui consiste en une incitation. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, il devient un peu difficile de parler des situations homophobes en France. Il faudrait que ça ne soit pas difficile pour autant. C'est-à-dire que le simple fait qu'hier, au gouvernement, ait été nommé notamment quelqu'un comme Gérard Darmanin, qui a quand même très explicitement pris des positions homophobes au moment du débat sur le mariage pour tous, et signalé qu'il se mettrait hors la loi en tant que maire de Tourcoing.
Il n'en a pas célébré d'ailleurs.
En ne célébrant pas le mariage, on n'a pas considéré le jour de la lutte, le jour de la nomination du gouvernement et le jour de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, on n'a pas considéré que c'était un critère disqualifiant et que cet homme ne méritait pas d'être ministre de la République.
Jean-Luc Romero, Joël Demier.
Il y a toujours une hiérarchie dans les discriminations. Parce que pour moi, toutes les discriminations se valent, que vous soyez raciste, antisémite, sexiste ou homophobe ou transphobe. Il faudra aussi qu'on parle des trans, parce que c'est l'un des gros problèmes aujourd'hui. On sent que c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, l'homophobie, c'est un peu la liberté d'expression. D'ailleurs, c'est ce que disent les responsables des réseaux sociaux américains en disant, bah oui, ça, on peut dire qu'un homosexuel est inférieur à un hétérosexuel, que c'est une abomination, c'est d'ailleurs écrit dans la Bible, etc. Et on voit qu'il y a cette hiérarchie qui est tout à fait scandaleuse. Et la pire encore de cela, c'est les trans. Moi, je reviens à l'instant, parce que c'est, faut le dire, parce que c'est quand même un moment fantastique. La mairie de Paris vient de donner le nom d'une place à Coccinelle, qui a été une grande artiste trans, qui a fait une carrière internationale, et c'est la première fois qu'on donne enfin le nom d'une place à une artiste trans. Faut pas oublier que la vie, et notamment d'une jeune trans, c'est que c'est aujourd'hui le plus compliqué. D'ailleurs, moi, en tant que gay, on ne les a pas suffisamment accompagnés. Maintenant, c'est en train, heureusement, de changer. Mais la transphobie, c'est aussi quelque chose d'une violence absolument incroyable aujourd'hui.
Joël Demier.
Oui, simplement deux mots pour revenir sur la Tchétchénie. Il faut quand même rappeler la gravité de ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que je pense qu'on
ne
prend pas conscience de ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un discours et une politique d'État là-bas qui cible les homosexuels parce qu'ils sont homosexuels. Enfin, c'est quand même la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, je crois, qu'aux portes de l'Europe, on vise une population pour ce qu'elle est. Enfin, c'est-à-dire qu'on vous vise parce que vous êtes homosexuel. Et il y a aussi des cas de femmes lesbiennes qui sont en Tchétchénie, qui sont persécutées, qui sont torturées. Il y a des actes derrière les mots de prison secrète. On utilise des mots comme ça. Parfois, on parle le camp. En tout cas, il y a des actes très concrets. Il y a des séances de torture. Il y a des actes, des coups très violents, des séances d'humiliation. On incite les familles à dénoncer qui, parmi ses frères, son fils est homosexuel. Y compris, on les incite à les tuer, et le fait de tuer un homosexuel, c'est valorisé socialement, c'est même encouragé, et le tout dans un contexte d'homophobie généralisée, où depuis 2013, Jean-Luc Romero le rappelait, il y a une loi qui a été adoptée en Russie, qui interdit toute propagande, entre guillemets, homosexuelle. Et donc, M. Poutine est quand même le premier responsable de ce qui se passe chez M. Kadyrov en Tchétchénie. Et je pense que tant que les opinions publiques n'auront pas pris la mesure de ce qui se passe là-bas, on pourra pas faire bouger les choses.
Pauline, bonsoir, vous nous appelez de Lyon, soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci pour votre émission, merci de votre temps. Moi, je voulais simplement faire remarquer que, bien heureusement, les émissions, on médiatise un petit peu plus les homosexuels, on pointe du doigt beaucoup plus précisément l'homophobie qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Mais ceci dit, comme on le voit aussi ce soir sur votre plateau, on n'a que des hommes sur votre plateau, hier soir aussi sur France 2. Donc voilà, j'ai l'impression que les femmes homosexuelles, on est peut-être un peu plus invisibles et peut-être, entre guillemets, enfin pour jeter un peu un pavé dans la mare, de seconde zone en tant que personne homosexuelle.
Tous les hommes du plateau font oui de la tête, Pauline. restez en ligne, Joël Demier vous répond et dialogue avec vous.
Oui, Pauline, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que même dans le rapport annuel des SOS Homophobie, on a 60% des témoignages qui viennent d'hommes et 40% de femmes. Ce qui veut dire que les lesbiennes et les femmes bi, parce qu'on oublie souvent les bi, qui existent et qui sont... Enfin, la bisexualité est une réalité. On oublie souvent que les femmes... Enfin, la société souhaite invisibiliser les lesbiennes. C'est-à-dire qu'on considère que les femmes ne sont pas bi, ne sont pas lesbiennes. Eh bien, si, et vous avez parfaitement raison, elles sont sous-représentées. Et ça aussi, c'est lié à de vieux stéréotypes très ancrés dans la société française, qui sont des stéréotypes et des réflexes sexistes, issus d'une société patriarcale qu'on doit absolument combattre. Et c'est ça pose la question du genre, en fait. Et on doit absolument avoir un débat sur le genre et le rapport au, sur
vous
les...
Vous avez vu la dernière fois que ça a failli être amorcé, hein, c'est parti dans tous les sens. Philippe Mangeau.
Non, je suis absolument d'accord avec ça. De toute façon, le fait que dans les populations homosexuelles, les lesbiennes sont traditionnellement négligées et quelque chose qui doit tous nous interroger, et notamment le fait qu'on est en effet quatre hommes autour de cette table, et qu'il n'y a pas une femme en tous les cas autour de cette table qui parle au micro.
Jean-Luc Romero, vous voulez dire un mot ?
Oui, non, mais que dire de plus, mais de revenir aussi sur les trans, parce que je crois aussi, ils ne sont pas là ici aujourd'hui non plus, mais il y a aujourd'hui des associations qui font quand même un travail fantastique. Il y a une marche, hein, faut le dire, l'existence, tous les ans au mois d'octobre, et qui n'a pas la même visibilité que là la marche des fiertés. Et on a tous une responsabilité aussi là-dessus. Et il faut dire, voilà, comprenez que ça reste, même s'il y a une nouvelle loi en France à la fin de l'année 2016 et qui entre en vigueur maintenant, qui a fait quelques avancées pour les trans,
mais seulement
aujourd'hui,
quelques
voilà, quelques avancées, mais je suis bien d'accord. Aujourd'hui, ce ne sont pas des citoyens et des citoyennes à part entière, et il faut continuer à se battre, et ça doit être, en tout cas dans le combat LGBTI, ça doit être, et les intersexes aussi, dont on parle depuis peu, ben voilà, il faut qu'on associe tout le monde dans ce combat-là, parce qu'on vit tous les mêmes discriminations, les mêmes problèmes, et on est souvent nié dans ce qu'on est nous-mêmes.
Mais pour être Philippe Mangeau, sur la question de la transphobie, une des revendications des trans, c'est le droit à s'autodéterminer. Autodéterminer son état civil. Or, précisément, aujourd'hui, cette détermination, elle passe par la décision d'un juge, et c'est précisément le problème qui est posé par les trans aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait qu'on considère que ce sont des mineurs, en fait, participe de la transphobie.
Joël Demier ?
Oui, vous avez... Enfin, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur la transphobie, c'est-à-dire que la loi de 2016, qui permet de faciliter le changement d'état civil des personnes trans, elle est bien, c'est un pas en avant, elle est insuffisante, mais en tout cas, on a observé dans le pays une augmentation dans le rapport d'SOS homophobie de 76% des cas de transphobie qui sont liés à l'adoption de la loi, parce qu'on a médiatisé un petit peu ces sujets-là. Et puis, cette loi, elle est totalement insuffisante, puisqu'on oblige aujourd'hui une personne trans qui veut changer d'état civil, c'est-à-dire à aller démontrer devant un juge qui elle est. C'est comme si on demandait à n'importe quel citoyen d'aller devant un juge et de lui expliquer qui vous êtes, en fait, d'expliquer votre identité. C'est une violence, en fait. C'est une vraie violence, et il faut absolument en arriver au principe d'autodétermination qui permet à toute personne trans de librement et gratuitement de demander à l'État,
je crois, c'est en Argentine,
à Malte,
en Argentine, où ça se fait. Puis il y a aussi un coût financier qu'on oblige, parce qu'en allant devant les tribunaux, on dit qu'il ne faut pas forcément un avocat, mais bien sûr, pour être sûr d'avoir un bon dossier. Et on voit que ça, c'est en tout cas une des grandes questions que j'espère le nouvel gouvernement va traiter et terminer enfin ce qu'a commencé le précédent.
Pauline, est-ce que vous voulez réintervenir? Est-ce que vous voulez rester avec nous jusqu'à 20h et participer à l'émission?
Non, mais je vous remercie. En tout cas, il faudrait que toute la communauté puisse se mobiliser pour qu'on ait tous une visibilité encore plus importante.
Merci beaucoup pour votre intervention, Pauline. Et bonsoir, Philippe. Philippe,
oui.
Nous vous écoutons.
Oui, ben, tout ce que vous venez de, ce qu'on vient d'entendre, ça me fait, je dirais, doucement rigoler. Parce que vous n'avez jamais entendu « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Vous n'avez jamais entendu ce qui arrive à quelqu'un, un hétérosexuel normal, s'il se met à déblatérer sa sexualité devant deux ou trois autres personnes. Ça s'appelle un outrage public à la pudeur, si je me souviens bien. Vous n'avez jamais entendu les difficultés qu'a quelqu'un pour faire reconnaître son état civil de français si par malheur pour lui, il est né dans un pays étranger, et il doit prendre un avocat, passer devant un juge. Donc tout ce que j'entends, là, me fait dire que un des gros problèmes des homosexuels, je ne sais pas si c'est lié à l'homosexualité, j'ai jamais particulièrement réfléchi à la question, c'est un exhibitionnisme qui fait que ils attirent eux-mêmes la foudre. Je suis sûr que si j'allais clamer sur les toits que je suis heureux en amour et que j'ai sauté ma femme la veille au soir, il y a des gens qui trouveraient ça indécent et qui me flanqueraient des baffes. Parmi votre audience en particulier. Mais parce qu'il dirait que c'est de l'homophobie camouflée, comme j'ai entendu tout à l'heure à propos de « Est-ce que tu viens, on va sortir, amène ta copine ?» Ce sont des choses tant que les homosexuels ne représenteront que 2 à 3% de la population, ce qui est, semble-t-il, la norme depuis qu'on est sorti des cavernes il y a 15 ou 20 000 ans, ce genre de choses se produira et elles seront innocentes, sauf si on hyper réagit.
Merci Philippe, s'il vous plaît. Restez en ligne et vous aurez la parole à nouveau, mais la première partie de votre intervention est déjà robuste et mérite un certain nombre de commentaires ici en studio. Qui veut commencer ? Jean-Luc Romero ?
Non mais... C'est un peu difficile. Moi, je veux bien tout entendre. La liberté d'expression peut sûrement permettre tout, mais quand un jeune gay ou une jeune lesbienne qui commence à se construire entend ça, je pense que ça doit pas être très simple. Mais ce que je veux dire, je ne comprends pas ce qu'il veut dire quand il nous dit voilà, on comprend pas ces homosexuels, particulièrement vous, donc on est visé, je crois tous les trois. Vous avez besoin de raconter votre vie sexuelle. Est-ce qu'on a raconté ici notre vie sexuelle? On dit voilà, est-ce que dire que nous sommes mariés, par exemple, ou que nous avons un compagnon, pour une lesbienne, une compagne, est-ce que ça, c'est de l'exhibitionnisme? Je ne crois pas. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai du mal à entendre. Mais c'est vrai, quand on parle de entendu naturel, on a entendu quand même un certain nombre de mots. Moi, c'est Philippe, c'est ça?
Oui.
La vie de Philippe sexuelle, je m'en fiche et j'aimerais qu'il se fiche autant de la mienne. Donc moi, j'ai du mal à comprendre parce que l'amour homosexuel, ça vaut autant que l'amour hétérosexuel et on ne fait pas plus de mal. Et qu'on nous dise pas dans les rues, comme je l'ai entendu aussi avec certains témoignages qu'on a eu ces derniers jours avec la journée mondiale, que d'un seul coup, tout notre pays aurait des gays, des lesbiennes qui se promeneraient tous main dans la main, qui copulerait dans les rues. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai jamais vu, ni dans le Marais, des gens s'exhiber à ce point-là. Et voilà, et ils tomberaient bien sûr aussi sous le coup de la loi. Et puis arrêtons, l'homosexualité, d'un seul coup, on a l'impression pour lui, c'est que de la sexualité. Mais on est des êtres complets. Bien sûr qu'on a une sexualité, mais je pense que ce monsieur, il a une sexualité. Mais on est d'abord des hommes et des femmes qui aimons. Et cet amour-là, il est aussi noble que l'amour hétérosexuel.
Joël Demier.
Oui, merci Philippe de ce témoignage assez robuste. En effet, si vous voulez...
Choisis le mot qui me venait à l'esprit.
Si vous voulez, le problème, Philippe, c'est pas l'homosexualité, c'est l'homophobie. Et la parole de... Enfin, des témoignages comme le vôtre participent et nourrissent cette homophobie. Et si vous voulez, l'homophobie, aujourd'hui, en France et dans le monde, elle tue. Et il y a un chiffre, par exemple, c'est que les jeunes gays, les jeunes lesbiennes, se suicident entre 4 et 7 fois plus que les jeunes hétérosexuels. À cause de quoi ? Pas à cause de leur homosexualité, c'est à cause de l'homophobie, c'est à cause du discours comme celui que vient de tenir Philippe, qui est un discours de haine, excusez-moi de le dire, hein, mais on peut pas laisser dire comme ça des discours aussi haineux à une heure de grande écoute. Vous pouvez penser ce que vous voulez, Philippe, mais en tout cas, vous devez vous mettre face à vos responsabilités. Ce genre de propos que vous tenez est un propos homophobe. L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit pénal. Et il faut absolument arrêter de banaliser les propos homophobes. Pour moi, c'est quand même un propos qui est totalement scandaleux. On ne peut plus, en 2017, aujourd'hui, entendre des propos d'une telle violence que vient de prononcer Philippe, sans réagir et sans... voilà, je respecte ce qu'il dit, mais en tout cas, je suis totalement...
Scandalisé. On l'entend, Philippe Mangeot.
En même temps, c'est normal que dans une émission sur l'homophobie, quelqu'un qui se réclame de l'homophobie, qui tient des propos homophobes, téléphone. Mais c'est normal aussi qu'on réponde. C'est-à-dire que quand Philippe parle de l'exhibitionnisme des homosexuels, je voudrais simplement savoir ce qu'il appelle l'exhibitionnisme. Je n'ai pas le sentiment, en tous les cas, que quand je vois un couple hétérosexuel s'embrasser, il est considéré comme exhibitionniste dans la rue ou ailleurs. Je pense, à entendre Philippe, que quand il voit un couple homosexuel s'embrasser, il considère que il y a là de l'exhibitionnisme. C'est-à-dire qu'il y a manifestement une définition différente de l'exhibitionnisme pour les homosexuels et pour les hétérosexuels.
Frédéric, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les intervenants. Bonsoir. Merci pour l'espace de parole que vous donnez à tous les Français, au-delà j'imagine, tous les soirs avec le téléphone sonne.
Merci à vous Frédéric, merci.
Alors pour ma part, il vaut mieux entendre ce que je viens d'entendre que d'être sourd, hein, mine de rien, de la part de l'intervenant précédent qui a tout à fait le droit de s'exprimer. Les intervenants ont très bien répondu, je les en remercie. Maintenant, pour ma part, donc moi je suis homo, j'ai 46 ans, je travaille dans la fonction publique, dans un ministère, et je dois dire que c'est la première fois cette année, j'ai changé de poste récemment suite à du harcèlement moral où l'homophobie a été l'un des outils de l'un de mes deux harceleurs pour arriver à me faire partir en arrêt maladie et péter un plomb. Mais c'est la première fois que j'ai pas d'homophobie, où je suis dans une équipe où... parce que moi, je m'assume. Je veux dire, je suis pas exhibitionniste, hein, pas du tout, hein, mais je suis un peu maniéré parfois, voilà. Donc je m'assume, j'ai toujours assumé mon homosexualité, surtout depuis que j'ai été agressé. agressé, pas jamais physiquement, hein, mais verbalement. J'ai trouvé que c'était mieux finalement de se lever. J'ai milité dans les associations, etc., etc. Mais je veux dire qu'au sein de la fonction publique actuellement, de mon point de vue, les gens qui s'assument réellement, ben, on en souffre. Et moi, j'ai 46 ans. J'ai commencé en école d'ingénieur à 21 ans. Mon premier poste, je l'ai pris à 25 ou 24 ou 25 après l'armée. Et à chaque poste que j'ai pris, j'ai toujours eu des remarques homophobes, quasi hebdomadaires. Voilà. Mmh. Et même maintenant que mes deux bourreaux ont obtenu le fait que je sois obligé de quitter mon ancien service, ils continuent pour à parler devant les équipes, à se foutre de ma gueule et à essayer de faire sortir de leur gond des gens qui m'auraient soutenu à l'époque. Et ceci, pour moi, c'est passible de l'article 40 du Code pénal. Et je constate que, de toute façon, on est dans une culture où on ne fait pas de vagues. Moi, si jamais je dis exactement l'administration d'où je viens, bien que mon accent, ma voix, etc., me fera reconnaître de tous mes collègues, ça j'assume. De toute façon, bah, je sais que je risque gros.
Merci Frédéric pour cette intervention. Bonsoir Arthur.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Bordeaux. Bienvenue.
Oui, tout à fait. Bonjour.
Bonjour.
Donc j'ai 18 ans et je suis homosexuel aussi. Les années mes plus difficiles, elles étaient au collège et au lycée, lorsque j'ai voulu cacher mon homosexualité. Et dès lors que je l'ai assumé, disons que les regards ont changé avec une certaine bienveillance. Il y avait moins de soupçons, de moqueries, de rumeurs et davantage de respect. Et les quelques-uns qui avaient un problème peut-être avec ça, eh ben, se sont éloignés de moi et réciproquement. Ensuite, je suis assez dérangé, moi qui ai vraiment soutenu Macron, donc autre sujet, de voir Christian Gérin, qui était investi aux législatives par En Marche et a été écarté pour ses propos antisémites, de voir que Gérald Darmanin a intégré l'équipe ministérielle avec des propos homophobe du même degré sur Twitter. Voilà.
Merci Arthur pour votre intervention. Qui veut dire un mot? Joël Demier, Jean-Luc Romero, Philippe Mangeau.
Bah, puisque là, je pense qu'on conclut.
On est en train, doucement.
Non, oui. Moi, je voulais avoir une pensée pour ces 70 pays qui pénalisent toujours l'homosexualité. On parlait de la Tchétchénie. Il y a aussi 11 pays qui condamnent à mort des gens qui n'ont rien fait de mal, si ce n'est que d'être ce qu'ils sont. Et voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie mobilisation autour de ça. On voit bien que la Tchétchénie, avec ce qui s'y passe, il n'y a pas la mobilisation, en tout cas, de la société civile qu'un tel fait mériterait. Donc moi, je pense à tous ces gens, je pense à tous ces jeunes qui vivent dans ces pays-là, qui n'ont pas la possibilité de parler comme l'ont fait ici, et qui doivent, eux, non seulement se cacher, parce que c'est leur vie qui en dépend. Et tu le disais tout à l'heure, l'homophobie tue. Elle tue aussi dans notre pays, mais dans ces pays-là, c'est l'État qui les tue.
Joël Demier.
Oui, la composition du gouvernement qui a été donc faite hier, on peut s'interroger sur certains membres du gouvernement qui ont tenu dans le passé des propos homophobes. Mais bon, il faut quand même avoir de l'espoir et se dire que ce qui est devant nous, c'est plusieurs combats. Il y a la PMA pour toutes les femmes déjà, il y a la fin des mutilations des intersexes, il y a aussi avoir un discours positif et inclusif sur toutes les familles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les conservateurs ont le monopole sur le discours de la famille. Il faut absolument construire un discours progressiste sur les familles. Et je pense que ce gouvernement peut très bien le faire. Et en tout cas, nous, on espère à SOS Homophobie un gouvernement ambitieux et engagé sur les LGBT.
Philippe Mangeau.
Oui, juste une chose. L'auditeur Xavier, je crois, a dit on n'aurait pas été ministre si on avait tenu des propos antisémites.
C'était Arthur.
Ouais. Il y a là quelque chose d'absolument central. C'est-à-dire qu'il y a des discriminations possibles et des discriminations impossibles ou impensables. Or, il faut se souvenir, et je crois que c'est particulièrement important aujourd'hui, où au nom de la lutte contre l'homophobie, on peut s'autoriser des propos islamophobes aujourd'hui. Et on peut s'autoriser une politique islamophobe aujourd'hui. Il est particulièrement important de rappeler que chaque fois qu'il y a une défaite sur un front minoritaire, c'est une défaite qui engage l'ensemble des minorités.
Merci à tous les trois et merci à vous, merci. Amis auditeurs d'Inter. Merci. Vous étiez très nombreux au Standard ce soir. Merci Joël Demier, Jean-Luc Romero et Philippe Mangeau. Le journal à suivre.